bien content que vous soyez ici ce matin. On veut saluer ceux qui nous écoutent en ligne. J'ai rencontré des gens d'assez loin qui nous écoutaient, alors on veut vous saluer. La semaine dernière, j'ai rencontré des gens. J'étais à Beauport, et puis c'est quand même presque 5 heures de route. Puis on a eu l'occasion de voir des gens qui nous écoutaient. Alors, on veut les saluer. Comme vous savez, nous sommes en train de faire notre série sur Marc. On est en train de passer à travers l'Évangile de Marc. Et puis, on est rendu au chapitre 8 ce matin. Et on arrive dans un point vraiment culminant, un point tournant dans l'Évangile de Marc. C'est un point culminant puisque c'est là que les disciples commencent à découvrir la véritable identité de Jésus-Christ. Et ce qu'on va faire ce matin, on va tourner dans un passage dans Marc, mais je vais aussi... Marc donne une version abrégée de cette rencontre avec ses disciples. Alors, on va aller aussi dans Matthieu, mais je vais vous montrer sur l'écran les passages dans Matthieu, donc vous pouvez vous tenir juste dans Marc. Mais c'est comme vous voulez, là. Il y en a qui sont peut-être moins à l'aise et tout ça. Alors, au lieu de simplement essayer de fouiller partout dans la Bible, essayer de trouver le passage, ne vous en faites pas, ça va être sur l'écran. Donc, on va aller voir comment Marc décrit cette scène importante dans son évangile. Alors, Marc, chapitre 8, et on va lire les versets 27 jusqu'au verset 33. Marc 8, verset 37. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes? » Ils répondirent « Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, et l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je? » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours plus tard. Il leur disait cela ouvertement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à leur reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Prions. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous arrivons à ce passage qui sépare tout le livre en deux, ce point culminant alors que Jésus emmène ses disciples dans ce territoire de Césarée de Philippe. Nous te prions, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous parler ce matin, nous rencontrer là où on est dans notre cheminement spirituel. Certaines personnes ici ont besoin de faire un pas de foi, t'embrasser comme sauveur, venir à toi pour leur salut, alors que d'autres ont besoin d'encouragement, d'autres ont besoin d'être fortifiés, d'autres ont besoin d'avoir un baume sur leur cœur en raison de leurs blessures, d'autres ont besoin d'une exhortation, Seigneur. Alors, quel que soit le message que nous avons besoin de recevoir, toi, ton Esprit Saint, a cette capacité surnaturelle de venir nous rejoindre là où on se trouve. Parle à nos cœurs. Ouvre les Écritures saintes. Aide-nous par ton esprit à comprendre ce dont il s'agit dans ce passage. Au nom de Jésus, qu'on sorte tous ici, fortifiés, édifiés, pour ta gloire, Seigneur. Amen. On peut imaginer la scène, Jésus est avec ses disciples, ils sont en chemin. Vraiment, ils s'en vont dans le nord de la Palestine. Et... Alors, une fois arrivé sur les lieux dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demande une question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Comment les gens me voient? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Alors, les disciples répondent. Certains pensent que tu es Jean-Baptiste, en fait. Jean-Baptiste avait été tué. On se rappelle cette histoire, tête coupée, tout ça. Alors, il y a des gens même qui ont peur parce qu'ils pensent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Alors, ils ont vraiment peur. D'autres pensent que vraiment, c'est Élie, parce que dans l'Ancien Testament, Élie, on a vu, disparaît à un moment donné de la carte. Il ne meurt même pas, il disparaît, est enlevé, va retrouver son sauveur. Alors, il y a des gens qui pensent que tu es Élie parce que dans le passage de Deux Rois et d'autres passages, ça l'annonçait, ça prophétisait qu'Élie devait revenir avant la fin des temps, avant l'établissement du royaume. Donc, certains pensent que tu es Élie. D'autres pensent que tu es simplement un prophète. Après tout, ils te voient faire des miracles, tu as fait des choses extraordinaires, ton enseignement. Alors, certains pensent que tu es simplement un prophète. Maintenant, si on devait poser la question aujourd'hui aux gens autour de nous, tu travailles à un bureau, plusieurs travaillent au gouvernement, peut-être même que tu es mécanicien ou quel que soit ton travail, ton métier, eh bien, tu poses des questions autour de toi, tu demandes, « Hey, pour toi, là, qui est Jésus? » Quand tu pousses vraiment la question assez loin, en fait, tu t'aperçois qu'il y a vraiment juste trois options. Certains pensent que Jésus était un mythe, simplement un mythe, un personnage mythique qui a probablement vécu effectivement dans le passé. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis, donc ils vont tasser simplement des choses, ils vont retenir peut-être certaines bonnes choses, enseignements, peut-être morales que Jésus a données. Ils aiment certains de ses enseignements. Après tout, il y a des bonnes choses. On pense justement à cette morale d'amour, aimez-vous les uns les autres, pardonnez, etc. Donc, il y a des gens qui vont prendre ça et vont dire, hey, c'est excellent, c'est vraiment bien. D'ailleurs, on a déjà entendu un athée dire, c'est un professeur en philosophie, c'est un athée qui croit pas en Dieu, là. Il a dit, j'ai pas le choix de faire recours à la morale des chrétiens, parce que je ne peux pas en inventer de la morale. Et c'est là qu'elle se trouve. Alors imaginez, donc il y a des gens qui vont retenir, vont tasser certaines affaires des Écritures, de la Bible, des choses qui ne font pas leur affaire, puis ils vont retenir seulement des choses qui font leur affaire, comme de la bonne moralité. D'ailleurs, c'était le cas de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis. Ce qu'il faisait, il prenait ce qui faisait son affaire, c'était la moralité vraiment de Jésus. Pour Jefferson, il croyait vraiment que Jésus était le meilleur enseignant qui avait jamais existé, une bonne moralité. Alors, il voulait retenir la moralité vraiment de Jésus, mais il tassait le reste. Il ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ, il ne croyait pas que Jésus était le Messie promis, il ne croyait pas qu'il était le Fils de Dieu. Alors, il a décidé, lui, tiens, je vais faire une Bible, je vais écrire un livre, j'enlève tout ce qui est surnaturel, j'enlève les miracles et tout ça, je tasse ça, puis je retiens seulement l'enseignement moral de Jésus. Et d'ailleurs, il a écrit un livre comme ça, il n'a pas mentionné de miracle, rien de ça, il a tout tassé ça, et puis il a juste écrit la moralité. Et c'est devenu ce qui s'appelle aujourd'hui la Bible de Jefferson. Maintenant, il y a des gens qui, parce que c'était comme, même ils se considéraient comme un chrétien. C'est ce qu'on appelle un chrétien déiste. Donc, il y a des gens qui se disent chrétiens, puis finalement pigent dans les Écritures et prennent juste qu'est-ce qu'ils font, leur affaire. Alors, Jésus est comme un mythe dans ce cas-ci. Alors, finalement, Jefferson, ce qu'il a fait, il a fabriqué un christianisme selon sa compréhension, puis selon ce qu'il acceptait comme croyance. Il y a peut-être même des gens ici ou des gens qui nous écoutent comme ça. Certaines personnes voient la Bible comme la Bible de Jefferson. Ils ne prennent seulement ce qui fait leur affaire. Une autre façon de voir Jésus, c'est de voir Jésus comme un simple homme. C'était un homme populaire et ils sont prêts à admettre, oui, il y a un homme comme ça, comme Jésus qui a existé, pas de problème. C'est un grand mystique spirituel. Bien des gens le suivaient. Mais là, on a un problème. Parce que si Jésus est seulement un homme peut se tromper, faire des erreurs. Tu ne veux pas mettre ta vie entre les mains de quelqu'un qui fait des erreurs, vrai? Et j'ai un autre problème avec ça, c'est que Jésus est allé tellement loin dans ses enseignements. Après tout, il allait à certains endroits et il disait qu'il était carrément Dieu. Donc, il est allé tellement loin, Jésus, que tu ne peux pas juste dire qu'il était un homme. Il est allé trop loin dans ses enseignements. D'ailleurs, il a même félicité Thomas lorsque Thomas l'a reconnu comme Dieu. Là, c'est un problème. Alors, Jésus se retourne d'abord à ses disciples, c'est correct. Il y a des gens qui pensent que je suis Jean-Baptiste, Élie, prophète et tout ça. Alors, prophète, c'est un homme. Il y a des gens qui pensent que je suis un homme. Il y a des gens qui pensent que je suis Jean-Baptiste et tout ça. Vous autres, maintenant. Écoutez, après tout, vous m'avez vu, les gars. Vous m'avez vu faire des miracles, vous avez entendu mes enseignements. Écoute, il y a même Dieu qui sort d'une voix du ciel qui dit, voici mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Vous avez vu plein d'affaires au cours de mon ministère et tout ça. Maintenant, vous autres, qui dites-vous que je suis? En d'autres mots, Jésus veut qu'on prenne position. Jésus veut que tu prennes position. Et les disciples, premièrement, celui qui a parlé, c'est qui a parlé le premier? Évidemment, Pierre. Pierre, c'est un extroverti, c'est sûr. Pierre, tout de suite, répond, « Tu es le Messie, Hey, c'est fort, ça, c'est toute une déclaration. Ça. Officiellement, je reconnais que tu es celui que l'Ancien Testament a tant annoncé. Des centaines de prophéties qui ont été annoncées à ton égard, je crois que tu es le Messie. On lit ça dans Marc 8, 29, il dit, Jésus pose la question, d'après vous, qui suis-je? Et Pierre lui répond, tu es le Messie. Maintenant, Marc, comme je le disais tantôt, donne une version un peu abrégée de cette scène solennelle et révérentielle, une scène très profonde et forte, puissante. Mais on a chez Matthieu une version un peu plus allongée, une version qui est plus détaillée. Et là, on a une version encore un peu plus proche de l'identité réelle de Jésus-Christ. Et Matthieu 16, 16 dit ceci. Matthieu 16, 16 dit, « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Alors, qui est Jésus? Jésus est le Messie. Ça veut dire qu'il est le roi. Tu es le Messie tant attendu dans l'Ancien Testament, celui qui doit prendre le trône de David pour l'éternité. Ça avait été annoncé, ça, dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, il dit, « Tu es le Fils de Dieu, donc tu es divin. Tu viens de Dieu, de la personne même de Dieu. » Et troisièmement, Jésus bâtit son Église. Il est le chef suprême de l'Église. Alors, Pierre vient de reconnaître que Jésus est le Messie. Il est le roi tant attendu, le sauveur du monde, le Fils de Dieu. Alors, Jésus va le répondre. Jésus va lui dire ceci au verset 17, dans Marc 16, 17. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça. » Mais c'est mon Père céleste. Et continue en disant au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre aura déjà été lié au ciel, et ce que tu vas délier sur la terre aura déjà été délié au ciel. » Maintenant, ce ne sont pas la chair et le sang, dit Jésus, qui t'ont révélé ça. C'est une expression qui était bien commune à l'époque. Les rabbins se servaient de cette expression-là. Ça voulait juste dire la petitesse de l'être humain. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire, c'est finalement essentiellement, ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça. Là. C'est trop grand pour que de toi-même tu arrives à cette conclusion-là. C'est une révélation. Tu viens de recevoir une révélation de Dieu. Et moi, je te dis, que tu es Pierre, verset 18, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Mais maintenant, ça veut dire ça? Dans la tradition de la plus grande Église chrétienne au monde, qu'on connaît bien, surtout très fort au Québec à l'époque, Pierre est le roc. Donc, l'Église s'est bâtie sur Pierre et son travail. L'Église catholique considère donc Pierre comme le premier pape sur qui Dieu a choisi de bâtir son Église. Et cette Église parle de succession de papes, si bien qu'elle a une liste traditionnellement admise de 266 papes, chefs de l'Église catholique romaine. Maintenant, il faut s'arrêter pour regarder, est-ce que c'est vraiment ça que les Écritures disent? Cette phrase, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas ce que les Écritures disent. La pierre, le roc en question, c'est plutôt la confession de Pierre. Ce que Pierre vient de professer, sa profession de foi, c'est qu'il est le Christ et l'Église sera bâtie sur le fait que, sur Jésus-Christ. Jésus est le Messie, Jésus est le chef suprême de l'Église. D'ailleurs, c'est ce que dit Éphésiens 2, 20. Ça dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » L'apôtre Pierre n'a jamais été un pape pour l'Église. Voici quatre raisons, quatre preuves évidentes de cela. Premièrement, le mot original ne fait pas allusion à Pierre, c'est une roche. Ce n'est pas Pierre, Pierre, c'est Petra, c'est une roche. Alors, tu es Pierre, mais sur ce roc, je vais bâtir mon Église. Deuxièmement, bien que Pierre ait joué un rôle central dans les débuts de la prédication de l'Évangile, la Bible déclare nulle part que Pierre ait eu une autorité supérieure aux autres apôtres ou aux disciples ou sur l'Église. Troisième raison, c'est que la parole de Dieu ne laisse jamais entendre que Pierre ne soit même allé à Rome. Alors, il ne peut pas avoir été le premier évêque de Rome. Quatrièmement, l'expression « lié et délié » s'applique autant aux chrétiens qu'aux apôtres et les disciples. au verset 19, Matthieu 16, 19, dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura déjà été lié dans le ciel et ce que tu vas délier sur terre aura déjà été délié au ciel. » Mais la même expression « lié, délié » se retrouve dans le contexte du processus de restauration de Matthieu 18, « lié, délié », et ça s'applique à tous les chrétiens. Ce n'est pas réservé juste aux apôtres, ni juste à Pierre. La Pierre n'est pas l'apôtre Pierre, c'est Jésus-Christ. Jésus est donc le Messie-Roi. Il est le Fils de Dieu. Il est le chef suprême de l'Église. Et il va mener son Église à la victoire contre les forces du mal. Amen. Verset 18 dit ceci, « Je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Ce qui est vraiment intéressant, c'est le détail géographique que Marc va soulever. Il nous donne cette précision du lieu géographique où il se trouve, où Jésus se trouve avec ses disciples. C'est un territoire qui s'appelle Césarée de Philippe. Maintenant, c'est très haut. Quand on regarde la carte, c'est dans le nord. Maintenant, cette région, et on voit ça dans Marc 8, 27, Marc dit, Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. C'est très, très haut. Et il faut savoir que les rabbins et les juifs de l'époque voyaient ce territoire comme épouvantable. C'était de l'impureté, c'était de la débauche. Ils avaient vraiment mauvaise presse dans le territoire du nord comme ça. C'était mal vu. Alors, pourquoi Jésus va dans ce territoire? Eh bien, ce territoire était reconnu pour sa débauche et de l'idolâtrie depuis des siècles et des siècles, même dans l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, cette région d'Israël était le centre de l'adoration de Baal. Et originellement, c'était à cet endroit que l'on adorait Baal, le dieu Baal, cette idole. D'ailleurs, vous pouvez voir ici un peu plus près le mur qu'on voit. Vous voyez ici le mur du fond, tout le mur. Eh bien, ce mur-là, vous aviez des trous, là, des niches avec des idoles. Et on venait là avoir des cultes avec. C'était de la débauche. On adorait ces dieux-là, le dieu de l'idolâtrie, finalement, qui était finalement Baal. Et c'était de l'idolâtrie. On croyait que Baal quittait les lieux en automne pour aller passer l'hiver à l'intérieur de cette grotte. Vous voyez la grotte ici, le trou. On croyait que Baal entrait en automne dans ce trou-là, dans cette grotte-là, et passait l'hiver dans le monde inférieur, dans le séjour des morts, si on veut. Et on espérait qu'il revienne au printemps pour bénir la fertilité. D'ailleurs, Baal, Zébul, le dieu du monde inférieur, le dieu des morts, le dieu des ténèbres, le dieu de l'Hadès. D'ailleurs, Jésus va appeler Baal-Zébul ou Baal. Et l'on croyait que Baal entrait dans cette grotte, par cette porte, pour aller dans le Hadès, passer l'hiver. Alors, on peut dire dans un certain sens que cette porte, la porte de Pan qu'on appelle, la grotte de Pan, est la porte du séjour des morts. Dans un sens, on sait que Jésus n'est pas en train de dire « voici la porte de l'Hadès du séjour des morts ». Non, c'est une image figurée. Mais certainement, dans ce lieu-là, Jésus les emmène là, qui était reconnu pour être un coin de ténèbres et d'immoralité. Certainement que Jésus va se servir de cela comme image, parce qu'on sait que la porte du séjour des morts, c'est spirituel, c'est pas physique. Mais il se sert probablement de cet endroit bien connu comme une métaphore, comme une image, pour nous apporter une leçon et un message très important. Alors, dans un sens imagé, voici la porte du séjour des morts, de façon imagée, une métaphore. C'est vraiment intéressant maintenant, quand on sait que les rabbins ont dit ceci. On découvre dans la littérature rabbinique qu'il disait que lorsque le Messie allait venir, les portes de Césarée de Philippe allaient s'effondrer en raison de l'immoralité de l'endroit. Alors, c'est vraiment intéressant quand on compare ça aux paroles de Jésus-Christ. Parce que les rabbins disaient que lorsque le Messie va venir, les portes du Hadès, les portes de Césarée de Philippe vont tomber, vont s'effondrer. Parce que Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Imaginez l'Église de Jésus-Christ ici et les portes du séjour des morts. Soyons honnêtes, là. On va être honnêtes. Okay? L'image qu'on a habituellement de l'Église, c'est qu'elle est comme un gros fort, une grosse forteresse, puis nous autres, on est en dedans de la forteresse, on se protège, puis le diable vient attaquer, frapper aux portes, essayer de renverser la porte, puis nous autres, on est en dedans, puis on est un peu à la défensive, puis là, on espère qu'il ne passe pas à travers, puis tant bien que mal, on va avoir la victoire. Pas vrai? En d'autres mots, on mène notre vie chrétienne un peu à la défensive. Bien, laissez-moi vous montrer une chose ici, ce que Jésus vient de dire, c'est les portes d'une ville. Il faut savoir que les portes d'une ville, il faut comprendre ça. Jésus, en fait, dit exactement le contraire. C'est l'Église qui attaque. Et le diable ne pourra pas résister aux assauts de l'Église de Jésus-Christ. Quand on pense aux portes dans l'Antiquité, il faut savoir que les portes d'un royaume à l'époque protégeaient la ville. Lorsque tu allais attaquer un royaume, attaquer une ville, un village ou un pays, lorsque tu réussissais à faire tomber les portes, tu rentrais, tu étais vaincu, tu étais fait, la ville était vulnérable, tu remportais la guerre. Et c'est l'image qu'on a ici. Alors, laissez-moi vous poser une question, les amis. Qui attaque qui? C'est l'Église qui affronte le royaume des ténèbres et les portes tombent et là on entre dans le territoire de l'ennemi, on pénètre dans le territoire des ténèbres pour tranquillement faire avancer l'œuvre de Dieu et voir des gens de plus en plus être libérés de l'esclavage du royaume des ténèbres, du péché et devenir des enfants de Dieu. Amen! Hey, je suis surpris que vous n'êtes pas plus excité que ça, là. Ça parle de toi, ça. Ça parle de toi. Alors, même les introvertis, là, je veux te voir applaudir comme un malade, là. Hein? On applaudit le Seigneur. Ah ouais, les introvertis, let's go. Let's go. Let's go. Amen. Hey. Jésus dit, là, sur cette pierre, et ça, c'est vraiment intéressant. Voici la Bible de Jérusalem, comment est-ce qu'elle traduit ça. « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre l'Église. » C'est l'Église qui prend d'assaut les forces du mal. Et le message de Jésus est bien clair. Passe à l'offensive. Cesse de mener ta vie chrétienne à la défensive. Fonce! Vas-y! Et jusqu'ici, tu as peut-être mené ta vie chrétienne comme à la défensive, mais c'est le temps de foncer, mon ami. Pense comme un gagnant. La victoire est déjà gagnée. Et mène le bon combat. Le Sauveur a remporté la victoire à la croix. L'Évangile transforme des vies. L'Évangile arrache des pécheurs du royaume des ténèbres. Mon ami, c'est une chose. Regarde les soldats, comment ils se battent quand ils viennent d'apprendre du général qu'ils sont en train de gagner. Je peux-tu juste te dire que l'adrénaline est dans le tapis? Quand tu sais que tu as gagné, tu gagnes, tu fonces, mon ami. Quel courage! Parce que tu sais que tu es en train de vaincre. Et ça, c'est nous autres. Ne menons pas notre vie chrétienne comme des victimes. Marchons comme des soldats qui viennent d'apprendre qu'ils vont gagner. Ce passage nous exhorte à prendre l'offensive, à pénétrer notre culture, à l'influencer par la puissance de l'Évangile. Notre mission est de prendre d'assaut les forces du mal là où on se trouve. Tu travailles dans un garage, tu es mécanicien. Wow! Hey, Dieu vient de rentrer dans ce garage-là quand tu rentres là le matin pour aller travailler. Il est là, mon ami, faire une œuvre dans le cœur des gens qui sont là. Et le Seigneur nous fait une promesse. Il dit, sais-tu quoi? Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est moi qui bâtis l'Église. Parce que le texte dit littéralement, ce que tu vas délier ici aura déjà été délié au ciel. Ce que tu vas lier ici, ça avait déjà été fait. En d'autres mots, je suis en train de marcher en avant de toi. Je suis en train de préparer les cœurs. Je suis en train de préparer le terrain. Quand tu arrives, toi, tu es prêt. La table est mise. Vas-y. Et tu vas voir que je vais faire des choses extraordinaires. Parce que j'étais là avant toi, avec la puissance de mon esprit. Oui, est-ce que je savais, moi, que ma femme restait dans un logement à un moment donné, il y a bien des années, on n'était pas mariés dans le temps. Puis ma femme, ça s'annonçait bien, elle avait une belle carrière à la télévision et tout ça. Elle chantait à la télévision, ça s'annonçait bien, moi j'avais une belle job et tout ça. Et là, tout d'un coup, il y a une méchante, et il y avait déjà quelqu'un qui avait nous avait annoncé l'Évangile, et honnêtement, je ne veux pas parler dans le dos de ma femme est là, OK, mais elle ne voulait rien savoir de l'Évangile, rien savoir, rien. Hein, tu te rappelles? Il y a quelqu'un sur Saint-Joseph, on s'en allait à la fête de Saint-Jean-Baptiste, là, c'est ça, en bas de la ville et tout ça, dans un parc, parc Mont-Royal. Ma femme ne voulait rien savoir. Elle était tough, mon ami. Elle dit, Non, mais c'est le temps, chérie, ça me fait tellement du bien. Je vais payer tantôt, par exemple, mais en tout cas. Mais sais-tu quoi? Vous ne voulez rien savoir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous allez dire, mais franchement, ça n'a pas de bon sens. Une inondation à Chamédé. Méchante inondation. On est resté dans un sous-sol, dans un logement, puis il y avait Teddy Villeneuve et tout ça, tout le kit. Inondation, ça rentre dans le logement. Il y avait 4 pieds d'eau, puis tu sais, de l'eau comme oui, c'est pas beau, là. C'est pas comme tu prends pas ton verre pour aller boire là-dedans, non. C'était vraiment épouvantable. Tu sais, ça flottait, frigidaire penché, télévision dans l'eau et tout ça. Vous savez ce que ça a fait? Là, tu peux dire, bien franchement, pourquoi Dieu a fait ça? Puis là, tu peux te mettre à critiquer Dieu. Mais c'est vous que ça a fait? Ça a attendri son cœur. Et elle dit elle-même, c'est cette expérience-là qui a préparé mon cœur pour que lorsque un de mes clients me parlait de Jésus-Christ, elle a dit oui à Jésus-Christ. La toffe, son cœur s'est attendri à l'Évangile. Jésus est en train de dire, sais-tu quoi? Moi, je prépare les cœurs, je prépare le terrain, puis je vais te surprendre avec ce que je vais faire. Magnifique. C'est toute une aventure d'être un chrétien. C'est magnifique d'être chrétien. Quelle aventure! Alors, quelles sont les portes du séjour des morts dans ton monde, à toi? Que peux-tu influencer dans ta culture, dans ton recoin, dans ton monde? Jésus est le Messie, le roi des rois. Il est le Fils de Dieu, le chef suprême de l'Église. Il nous mène à la victoire. Il détient les clés du royaume de Dieu. Jésus détient les clés du royaume de Dieu. En d'autres mots, il est le seul chemin. Il vient d'ouvrir la porte. Il est le seul chemin pour aller au ciel, pour avoir une relation avec Dieu. Et Matthieu 16, 19 dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre aura été délié dans le ciel. Ce que tu délies sera déjà délié. » En d'autres mots, la clé du royaume de Dieu appartient à Jésus. Et en remettant les clés à Pierre et à ses disciples, il vient d'ouvrir la porte du ciel pour que des gens viennent à Christ, viennent à Jésus, et aient leurs péchés pardonnés et reçoivent la vie éternelle. Et c'est ce qui arrive dans Acte 2, hein? Extraordinaire, la naissance de l'Église, plus de 3000 personnes viennent au Seigneur Jésus. Un peu plus tard, dans le livre des Actes, on est rendu à 70 000 personnes qui viennent à Jésus-Christ, qui sont rendues chrétiens. Et on le voit encore aujourd'hui, hein? Des experts en mission, on le dit souvent, ça, des experts en mission estiment qu'il y a 3000 personnes qui viennent à Jésus-Christ à toutes les heures, 24 heures sur 24, à l'année, dans des pays reculés, des pays sévères contre le christianisme, où tu te fais mettre en prison, où tu te fais même tuer. Incroyable, je suis en train d'écouter un livre, c'est sur audiobook, un livre car Dieu a tant aimé les musulmans. Quelle histoire, des témoignages puissants de musulmans, des chics, des chefs et des gens qui se convertissent à Jésus-Christ d'une façon tout à fait extraordinaire. Amen. Dans un pays très, très sévère à l'endroit des chrétiens. Et sixièmement, Jésus est aussi un roi serviteur. Matthieu 8, 31. Alors, il commença à leur enseigner. Jésus enseigne qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par des spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Imagine-toi donc, Jésus est en train de prophétiser ce qui va arriver exactement à la lettre. Ce sont les chefs religieux qui l'ont arrêté, l'ont emmené. Il a été battu, il a souffert, il a été crucifié, puis il ressuscite 3 jours après, exactement comme Jésus l'avait annoncé. Il va faire ça 2-3 fois, plusieurs fois après. Il commence à annoncer sa mort. Il prépare ses disciples. Jésus est en train de dire, « Je suis un roi, mais je suis un roi qui se dirige vers une croix. » Un roi serviteur qui nous aime, qui ne veut pas nous laisser perdus dans notre péché, veut nous emmener avec lui au ciel. Un cœur tendre, plein de compassion. Ce qu'on apprend ici aussi, c'est que Jésus est le seul moyen pour nous d'être sauvés. C'est par lui qu'on nous pouvons voir nos péchés pardonnés et avoir l'assurance de la vie éternelle. C'est ce que dit 1 Timothée. 1 Timothée va dire, « En effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui prient des saints. C'est tellement clair ici dans 1 Timothée 2,5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pourquoi je prierais un saint quand je peux prier Jésus-Christ? Et troisièmement, on marche dans la victoire quand on partage le puissant message de l'Évangile qui transforme des vies. Magnifique comment l'Évangile peut prendre une vie et la transformer par sa puissance. Romains 10, 13 dit ceci, dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont sauvés? Amen. « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? » Si vous êtes ici, c'est que quelqu'un vous a parlé de Jésus. Même à la limite, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchaient, tout d'un coup comme ça, ils ont eu à cœur d'aller dans une église, ils ont cherché l'Internet. Mais même là, il y a une personne qui a préparé ce site Internet-là. À quelque part, Dieu s'est servi de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, pour qu'aujourd'hui tu puisses être ici. Le seul moyen que les gens viendront à Jésus-Christ est si on répand le beau message de l'Évangile de Jésus-Christ. La semaine passée, j'étais à Beauport et je donnais un cours de prédication à des pasteurs puis à des leaders d'église. Puis il y a un bonhomme, vers la fin de la journée, il y a un bonhomme qui s'appelle Steve, qui on s'est croisé, on s'est parlé. Puis je lui ai demandé comment il était venu à Jésus-Christ, comment tu as connu Jésus-Christ. Puis il m'a donné son témoignage et il me racontait que, à l'âge de 10 ans, c'est un gars qui avait une nature très anxieuse et puis c'était une personne qui, les musiciens peuvent s'approcher s'ils veulent, hein, pas de problème. Et puis, il disait que même déjà à l'âge de 10 ans, il y avait des questions fondamentales, il y avait des questions de sens de la vie. Il se posait des questions sur sa raison d'être, pourquoi il vivait, pourquoi il existait. Il n'y avait pas personne qui pouvait répondre, même à l'âge de 10 ans, personne ne pouvait lui répondre cette question-là. Et là, il est arrivé un drame dans sa vie, ses parents se sont séparés. Ça a eu tout un impact sur lui. Il ne voyait pas son père seulement aux 2 semaines et tout ça. Puis il avait pris une résolution à ce moment-là. Il avait pris une décision à ce moment-là que lui, il ne ferait jamais ça. Que lui, il était pour se marier. Il s'est fait un plan quand il était jeune. Il dit, moi, je vais avoir une belle carrière. Il était bon à l'école. Il est allé comme ingénieur. Il dit, moi, je vais avoir une femme, je vais avoir des enfants. Puis jamais, je vais avoir une maison, un chalet. Puis jamais, je vais me séparer. Jamais. Moi, je ne ferai pas ce que j'ai subi. Alors là, la vie s'est poursuivie. Et puis, effectivement, il a réussi à combler tout son rêve, tout son plan, etc. Il a eu son chalet, sa maison, sa femme, ses enfants. Il a eu une belle carrière, super bien. Tout allait bien. Pas vraiment. La pression qui se mettait sur lui, finalement, tranquillement, est tombée dans l'alcoolisme et il est tombé dans le découragement et tout ça. Et puis, il est arrivé des épreuves dans sa vie, si bien qu'un jour, sa femme et lui se sont séparés. Et là, il a un cœur brisé, il est à l'envers, il ne va pas bien, il peut voir ses enfants seulement aux 2 semaines. Alors tranquillement, il est devenu malade et de plus en plus malade, et si bien qu'il est obligé de prendre congé de son travail. Ça fait 2 mois qu'il ne travaille plus, il est chez eux, il est médicamenté, il est chez eux, plus de travail, et il a eu tout ce qu'il voulait, il a eu son chalet, sa maison, une belle carrière, sa femme, ses enfants, tout, il y avait absolument tout. Mais tout ce temps-là, toute sa vie, il y avait un vide qu'il n'était pas capable de combler. Il ne comprenait pas. Il y avait toujours ce vide-là dans sa vie, dans son cœur. Ce matin-là, ça fait 2 mois qu'il ne travaille plus, il est malade, découragé. Et là, il rentre dans sa douche, il est 11h du matin, il se lève à 11h un matin. Et puis, il va dans sa douche, s'effondre à terre, sur le sol, il se met à genoux. Et puis, il fait cette prière. Voici la prière. Mot à mot. C'est pas un chrétien, il ne connaît pas Jésus, il n'a pas lu la Bible. Mais là, il dit, je m'adresse à toi, Dieu. Moi, je suis certain qu'il y a un Dieu, alors c'est à toi que je m'adresse ce matin. Dieu, je n'ai plus aucun plaisir pour moi-même dans la vie, je ne peux rien faire aujourd'hui qui va me rendre heureux. Je suis malade, je suis à terre. Aujourd'hui, si je peux faire quelque chose pour toi, prends ma vie. Fais-le. Mais j'ai un problème, Dieu. Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Alors manifeste-toi. Prends sa douche. Dans la même journée, il rencontre quelqu'un qui lui donne une carte sur laquelle c'est écrit Jésus. En arrière, il y a une prière. Dans la même semaine, il fait la rencontre d'une femme qui était là, dans un logement. Et il est en visite, je pense, et il ne la connaît pas. Il rencontre cette dame. Cette dame et lui commencent à se parler. Dans le milieu de la conversation, Il lui dit, « Je cherche Dieu. » Ça donnait que cette femme-là était une chrétienne, un enfant de Dieu. Par hasard? Par hasard? Elle lui a dit, « Si tu cherches Dieu, va dans la Bible. Commence à lire la Bible, la parole de Dieu. Tu vas le découvrir. » Et c'est ça qu'il a fait. Il a commencé à lire la Bible et comme un ingénieur. Il a voulu analyser. Il dit, « Moi, j'étais sérieux, rationnel. Dans mon métier, il fallait toujours faire des examens, m'assurer que tout était correct. » Alors, j'ai commencé à lire les Écritures comme ça pour finalement découvrir que les vérités que je trouvais dans les Écritures étaient plus vraies que les vérités que j'entendais ailleurs, à l'école et à mon travail. Et tranquillement, sa foi s'est bâtie. Il a lu un autre livre, c'est un livre chrétien, « Destination finale ». Et il s'est converti à Jésus-Christ. Un homme tellement changé, lui-même va dire, « J'ai découvert Jésus ». Il dit comment le Seigneur a rempli le vide que personne n'avait jamais réussi à remplir dans son cœur. Il dit, « J'ai eu la conviction que j'étais maintenant un enfant de Dieu. J'ai commencé à avoir la paix, j'ai eu aussi un sens à ma vie. » Et là, je sais où je m'en vais. J'ai une relation personnelle avec Dieu, puis son plan, je réalise aujourd'hui que son plan est pas mal meilleur que le plan que je m'étais fait quand j'étais jeune. Et là, j'ai commencé à avoir une restauration. Il est allé voir des gens avec qui il avait créé des blessures, des confrontations à son travail. Il est allé les voir pour leur demander pardon. À chaque personne, il leur demandait pardon. Il est allé voir sa femme. Il lui a demandé pardon. Et les gens voyaient en lui un homme nouveau, changé. Et tout d'un coup, cet homme l'a découragé à terre, a commencé à avoir de la joie. Jésus dit, je vous donne ma joie, une joie parfaite. Je vous donne ma paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Il dit tout d'un coup, j'avais une paix, j'avais des réponses. Et sa femme est revenue avec lui. Ah, il me disait ça me fondait le cœur. Il dit, Normand, il dit, quand je me lève le matin, ma femme est à côté de moi. J'ai mes enfants à quelques pieds de moi. Il dit, ça, c'est l'Évangile qui a fait ça. Rien d'autre. Amen. Est-ce qu'on donne une main au Seigneur d'appréciation pour ce qu'il fait? Merci, Seigneur.